9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Je vais recevoir aujourd'hui dans C'est arrivé demain Victor Chevrillon qui a enquêté pour un livre sur une industrie en pleine expansion, l'industrie du cachemire. Les pulls en cachemire à 50 euros sont devenus denrées courantes. Alors par quel miracle? Il va nous le dire. Il y aura aussi Serge Joncourt. Dans son nouveau roman, il nous raconte l'histoire de France des 50 dernières années, mais du point de vue des paysans. Et puis, il y a l'appel qui a été lancé pour marcher sur les aéroports. Cet appel, c'est pour le 3 octobre. Et j'ai à côté de moi deux des signataires. Manon Aubry, vous êtes députée européenne. Vous étiez tête de liste de la France Insoumise lors des dernières élections européennes. Vous voulez réduire le trafic aérien. C'est le sens de cet appel à marcher sur les aéroports?
Oui, l'objectif est d'abord qu'il y ait une prise de conscience de l'impact du secteur aérien sur le changement climatique. Quand on prend l'avion, en moyenne, c'est jusqu'à 40 fois plus polluant que de prendre le train. Et on est dans un modèle de société qui court toujours plus à l'utilisation de l'avion plutôt que des modes de transport qui sont moins nocifs pour l'environnement. Et donc l'enjeu et le vrai débat qu'il faut se poser, c'est comment, si on veut, dans les prochaines années, réduire l'empreinte carbone de la France, comment le secteur aérien peut y participer. On y reviendra certainement dans le débat en associant aussi les salariés à la reconversion d'un secteur. Et comment on fait en sorte qu'à la fois on développe des modes de transport alternatifs comme le train qui sont moins polluants et à la fois on décourage à prendre l'avion avec par exemple une taxe kérosène, la fin de l'exemption sur la taxe kérosène et la fin d'un taux de TVA privilégié qui fait que c'est de l'argent aussi qui permet derrière d'être réinvesti dans des modes de transport qui sont plus protecteurs de l'environnement.
Il y a également Cécilia Rinaudo, qui est coordinatrice générale de Notre Affaire à Tous, une association qui lutte pour la justice climatique par des moyens essentiellement juridiques. C'est vrai que depuis le confinement, on a l'impression que de plus en plus de Français sont remontés contre l'avion. On sait pourtant depuis belle lurette que l'aérien représente environ 11% des émissions de CO2 occasionnées par les transports au niveau mondial. Pourquoi le confinement a-t-il été un déclic, à votre avis, Cécilia? Pourquoi en veut-on encore plus aux avions depuis qu'ils sont cloués au sol?
Je pense que le confinement, ça a aussi permis de prendre conscience d'un mode de vie qui est de plus en plus polluant, de plus en plus nocif à l'environnement, qu'il faut repenser notre mode de vivre, notre mode de fonctionner. Ça aussi, les gens ont pris conscience aussi qu'on pouvait tout à fait voyager en France d'une autre manière. Et surtout, en fait, on voit qu'on fait des efforts, on essaie de faire des efforts à plein de niveaux. Et à l'opposé, l'aviation, c'est un des secteurs, dans les secteurs polluants, c'est celui qui a la plus forte croissance, avec 70% d'augmentation du trafic aérien entre 1990 et 2018, ce qui est énorme. Alors que justement, on a des stratégies, une stratégie nationale bas carbone qui pousse justement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui ne prend pas en compte les vols internationaux. Donc ça pose un véritable problème. On est déjà en retard sur cette stratégie-là. On est loin encore de respecter nos objectifs. Et on n'intègre pas l'aviation qui continue à se développer, à croître. On est actuellement une quinzaine d'extensions d'aéroports qui sont prévues en France, ce qui va à l'opposé total de l'urgence climatique qu'on traverse actuellement.
Mais c'est parce que les transports aériens se sont considérablement démocratisés depuis 40 ans à peu près, en voulant taxer le kérosène. Est-ce que vous ne vous en prenez pas au fond aux voyageurs aujourd'hui qui sont les moins riches? Est-ce que vous ne voulez pas refaire de l'aviation un produit de luxe?
D'abord sur la démocratisation, quelques chiffres qui permettent de relativiser cette démocratisation. Aujourd'hui, la moitié des déplacements aériens sont le fait de 2% de la population qui se trouve parmi les 20% les plus riches. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'avion. Et ça, il faut vraiment battre en brèche. C'est aujourd'hui le comportement des plus riches qui a aujourd'hui un impact carbone bien plus important. Il ne s'agit pas de taper dans le portefeuille des plus pauvres. Ensuite, sur la taxe kérosène. Aujourd'hui, cette taxe kérosène s'applique à tous ceux qui utilisent du kérosène, sauf aux avions. Et en plus, vous avez un taux de TVA qui est de 10%, alors que le taux de TVA normal, si vous allez faire vos courses, c'est de 20%. Ça veut dire que ces deux éléments-là marchent comme une subvention publique à l'utilisation de l'avion. C'est de l'argent public, de vous, de moi, de nos impôts, qui sert à subventionner l'avion, là où on devrait, par exemple, subventionner le train et rendre accessible, démocratiser le train pour que tout le monde n'aient pas à se poser la question de est-ce que mon Paris-Marseille, je vais prendre l'avion parce qu'il me coûte 30 euros alors que mon Paris-Marseille, en train, il me coûte 100 euros. Et que je pense que tout le monde, dans l'absolu, voudrait prendre le train, mais qui se retrouve parfois à privilégier l'avion parce qu'il est moins cher, parce qu'il y a une incitation, et que cette incitation, c'est le fait d'un choix public de la part de l'État.
C'est vrai que le gouvernement français a présenté dès le mois de juin un plan d'aide de 15 milliards pour les filières aéronautiques frappées de plein fouet par la crise du Covid, dont 7 milliards pour Air France KLM, mais en imposant quand même des contraintes environnementales, notamment de produire des avions décarbonés d'ici 2035, et puis des contraintes de maintien de l'emploi. Je rappelle que c'est un secteur qui représente 200 000 emplois dans notre pays. Ce que vous n'oubliez pas dans l'appel, vous déclarez en faveur de la reconversion de ce secteur, en solidarité avec les salariés. Mais comment, Cécilia, elle nous dit ?
Alors, je pense que Manon pourra répondre aussi plus spécifiquement à cette question, mais en fait, c'est vraiment de travailler à un plan de reconversion des employés avec les syndicats, justement pour anticiper cette baisse nécessaire du trafic aérien et de voir comment est-ce qu'on peut réaffecter les salariés à d'autres types d'emplois qui soient en lien avec la transition écologique qui est nécessaire.
On peut reconvertir tout un secteur, celui de l'aéronautique, des pilotes aux hôtesses, en passant par tous les emplois divers.
Bien sûr qu'on le peut à partir du moment où on associe ses salariés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reconvertir un secteur en disant allez-y, débrouillez-vous et on vous abandonne en rase campagne, de la même manière où on avait abandonné en rase campagne les miniers à l'époque de la fin des mines à charbon en France. Et là, donc, si on les met au cœur du processus, ces salariés, y compris potentiellement en renationalisant les entreprises, les compagnies aériennes françaises, dans un grand pôle public, et on accompagne les salariés en garantissant leur emploi. Et c'est là où le rôle de l'État est majeur et central. On pourrait mettre en place ce qu'on appelle l'État employeur en dernier ressort. C'est une bataille aussi qui est menée par les démocrates aux États-Unis dans la mouvance d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui parle de cet État employeur en dernier ressort qui permet de garantir l'emploi. Donc on dit aux salariés, vous ne perdrez pas votre salaire, vous ne perdrez pas votre emploi, et ensemble, définissons ce que vous pouvez faire comme emploi. Des hôtesses qui sont polyglottes peuvent être facilement reconverties dans le tourisme. On a vu pendant la crise que Airbus est associé à Thales pour produire des respirateurs. Donc les technologies, les savoirs qu'ont les uns et les autres dans l'ensemble du secteur sont reconvertibles à partir du moment où on les associe. Et là, tout le monde est gagnant, à la fois les planètes, la planète et les salariés.
Vous préconisez dans cet appel de fermer les liaisons aériennes intérieures qui sont réalisables en train. C'était aussi une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, une des propositions des 150 citoyens pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors on sait, alors toujours sur les calculs, tout le monde n'est pas d'accord, mais grosso modo, ce serait 0,8% de nos émissions totales de gaz à effet de serre, les liaisons intérieures. Mais cela dit, j'imagine que vous ne voulez pas vous arrêter là. Je ne vois pas pourquoi vous laisseriez les gens prendre l'avion pour Amsterdam, pour Londres, pour Bruxelles ou pour Rome. Là aussi, on peut y aller en train. Cécilia ?
C'est pour ça que c'est vraiment toute une stratégie d'investissement dans les transports ferroviaires au niveau national et au niveau européen, puisqu'on sait que c'est possible. Redévelopper des trains de nuit, investir à ce niveau-là, parce que on le voit actuellement. Alors, en termes d'émissions, on pourrait dire que c'est quand même plus, ça dépend des calculs qu'on va prendre. Les transports aériens, quand même, c'est 2/3 des transports nationaux en France sur des liaisons de France à France. Donc, ça représente quand même une part importante. Là, aujourd'hui, actuellement, je crois qu'il doit avoir 24 Paris-Toulouse par jour, ce qui est énorme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 24 avions qui vont de Paris à Toulouse ? Et c'est pour ça que c'est vraiment redévelopper le trafic ferroviaire, créer des nouvelles lignes, pouvoir aussi avoir un plan de désenclavement de la France pour permettre aussi des transports de sud à sud. Il y a une vraie stratégie à mettre en place et il y en a d'autres aussi. Arrêter les extensions d'aéroports, ça fait partie
des mesures. On en parle, si vous le voulez bien, juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei.
Nous sommes en direct avec Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, et Cécilia Rinaudo, coordinatrice générale de Notre Affaire à Tous. Elles font partie des signataires de l'appel à marcher dans toute la France sur les aéroports le samedi 3 octobre prochain pour réduire le trafic aérien. Alors, il faut bien reconnaître que vous allez pas seulement perturber les lignes intérieures le 3 octobre, vous voulez également, j'imagine que vous en voulez également aux jets privés qui se posent au Bourget, aux vols long courrier. C'est la totalité du trafic aérien que vous voulez réduire drastiquement. Mais à quoi ça sert de telles limitations si la France est la seule à les prendre? Si nos voisins continuent de se déplacer en avion et que nous, nous sommes les seuls à choisir le train, est-ce que ça ne va pas revenir à nous handicaper au lieu de faire baisser de façon significative le CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère, Manon Aubry?
Alors d'abord, un petit chiffre qui donne un bon exemple sur les jets privés. Moi, je viens du sud de la France et il y a des jets privés qui partent de l'aéroport de Nice et qui vont à Monte-Carlo, qui est juste à côté. Je crois que ça fait 5 ou 6 minutes en avion.
Oui, il y a surtout des hélicoptères qui font ce trajet-là.
Mais aussi en avion, en jet. Et alors que vous avez je ne sais combien de liaisons en train et qui mènent à peine 20 minutes. Donc les jets privés, c'est l'exemple le plus symptomatique, y compris de l'usage différencié de l'avion et très marqué socialement.
Mais la plupart des jets privés, ça consiste quand même à faire du long courrier.
Mais avec des avions qui polluent énormément et très peu de personnes dedans. Ensuite, pour répondre à votre question, il faut bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, cette semaine d'ailleurs, la Commission européenne vient de se doter d'un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Alors c'est en dessous des 65% scientifiquement nécessaires pour respecter les accords de Paris. Mais ceci dit, dans la trajectoire à l'heure actuelle, l'Union européenne est sur une trajectoire à 30%. Donc il faut bien commencer quelque part. Et d'ailleurs, des États européens ont commencé quelque part. Il y a eu un mouvement en Suède de boycott de l'avion qui s'est traduit par une réduction drastique de l'utilisation de l'avion, alors que Dieu sait que la Suède est un peu plus isolée que nous d'un point de vue géographique au sein de l'Union européenne. Donc il s'agit là de... rehausser la contribution de la France à la baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'essentiel du trafic aérien en France, c'est du trafic interne. Et ce trafic interne, si déjà on y arrive à le baisser drastiquement en développant des alternatives en train, qui fait que quand vous voulez aller de la Bretagne au sud-est de la France, bah oui, vous prenez l'avion parce que vous n'avez pas d'alternative, vous êtes obligé de passer par Paris, de changer de gare, etc. Développons une transversale, potentiellement un train de nuit. Et c'est là l'erreur coupable du gouvernement qui a fermé, du gouvernement, mais des gouvernements précédents aussi, pour le coup, ils portent tous la responsabilité, qui ont fermé à tour de bras des lignes de train de nuit. Moi, quand j'étais petite, je me souviens avoir pris je ne sais combien de fois le train de nuit pour traverser la France. Maintenant, il n'y en a plus que quelques-unes, ça se compte sur les doigts d'une main. Et il faut à tout prix un grand plan de réinvestissement pour les trains de nuit. Et déjà, la contribution de la France sera significative à la baisse du trafic aérien.
Mais les transports aériens ne représentent, là encore, on peut différer sur les calculs, mais grosso modo 1,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 4,4% des émissions totales d'un pays comme la France. On se dit, pourquoi commencer par là? Parce qu'après tout, il y a l'automobile. L'automobile, c'est 9% des émissions mondiales. On pourrait s'attaquer aussi à Internet, qui est devenu le troisième pays producteur d'électricité après les États-Unis et la Chine. Internet, c'est 10-15%, entre 10 et 15% de l'électricité mondiale. L'électricité, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la pollution. On le sait très bien. Les climatiseurs, on ne cesse d'acheter des climatiseurs, justement parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc, on va en acheter encore plus et ça représente d'ores et déjà 10% de consommation électrique mondiale. Pourquoi ne pas s'attaquer aux climatiseurs ou à Internet ou à l'automobile? Pourquoi les avions? Je vois bien que depuis quelque temps, les avions, tout le monde a les avions dans le collimateur. Cécilia Renaudy, vous avez une idée?
Alors déjà, je pense que les chiffres sont contestables et ils sont déjà contestés puisque quand on dit que ça représente que 1,2% des émissions de gaz à effet de serre, en fait, ça ne prend en compte que les émissions des réacteurs, ça ne prend pas en compte le kérosène brûlé, tout ce qui est les traînées de condensation et d'autres gaz, même la production et l'acheminement du kérosène. Si on prend ces chiffres-là, on augmente la part du transport aérien de 5% au niveau mondial et de 7% au niveau français. Donc déjà, on voit que c'est quand même bien plus important que les chiffres que nous donne le secteur aérien pour diminuer un peu l'impact de l'avion. Et surtout, en fait, comme je disais tout à l'heure, on parle actuellement, on voit une augmentation, on a une tendance à l'augmentation du secteur aérien qui s'est généralisée depuis une vingtaine d'années et qui a des projections. Quand on voit les projections, on estime que d'ici 2030, on aura triplé le trafic aérien européen, ce qui est énorme. Et si on continue sur la trajectoire actuelle, en fait, l'aérien consommera la totalité de notre budget carbone en 2050. Ça veut dire que dans ce cas-là, on arrête de manger, on arrête de se nourrir, on arrête de se vêtir. On arrête tout le reste.
Oui,
en fait,
parce que ça consomme, ça envoie du CO2 dans l'atmosphère. Hein, le fait de se vêtir et le fait de manger de la viande, par exemple.
Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important, en fait, de stopper cette accélération et cette augmentation du trafic aérien. Et comme je disais, on a une quinzaine d'extensions d'aéroports actuellement en France. On a le T4 à Roissy, qui est comme construire un nouvel Orly, en fait, à Roissy, et qui prévoit une augmentation de 40% du trafic aérien. C'est énorme. Et donc, le secteur aérien doit contribuer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique et revoir un peu ses prévisions de croissance.
Grosso modo, il y a deux moyens, hein, quand on veut réduire, que ce soit le transport aérien ou le transport automobile, soit en le taxant et on en fait un produit de luxe. Ce sera réservé aux riches de prendre l'avion, comme c'était le cas autrefois. Même si, vous l'avez dit, ça ne s'est pas autant démocratisé qu'on le croit, Manon Aubry. Ou alors en le rationnant, il y a les tickets de rationnement. On pourrait prendre l'avion une fois tous les 3 ans, comme ça tout le monde pourrait prendre l'avion une fois tous les 3 ans, ou des tickets pour acheter 4 vêtements par an, ou 2 heures d'ordinateur par semaine. Mais là, on sait bien qu'il y aurait un marché noir, et là encore, les riches finiraient pour en profiter. Vous le savez, Manon Aubry, vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a que ces deux moyens-là d'en venir à bout, que ce soit du transport aérien très polluant, ou d'autres choses
d'ailleurs ?
Non,
je ne pense pas que ce soit les uniques moyens. Alors, il y a la question, en effet, d'un quota carbone individuel. Mais la deuxième chose, qui pour moi, c'est pour ça que la question de l'avion est si importante, ça interroge notre mode de vie, notre imaginaire. Et avec l'avion, il y a cette idée de gagner toujours du temps, d'aller plus vite à un endroit à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Et que si jamais on avait plus de temps pour nous, plus de temps libre, qu'on réduisait le temps de travail, alors on aurait aussi plus de temps pour se déplacer. Voilà un moyen qui permet de re-socialiser une question. C'est pas uniquement en taxant au portefeuille, c'est en changeant, modifiant notre mode de vie, notre rapport au déplacement, et du coup en nous laissant aussi plus de temps pour se déplacer de manière qui soit plus respectueuse de l'environnement.
Merci beaucoup Manon Aubry, Cécilia Rinudo d'avoir été en direct dans Cette arrivée demain. Je rappelle que c'est donc le 3 octobre, méfiez-vous, les aéroports risquent d'être perturbés. On se retrouve dans un instant avec Serge Joncourt.
9h, 10h, C'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Serge Joncourt vient de s'asseoir dans ce studio. C'est l'auteur de L'écrivain national, de Repose-toi sur moi et de Nature humaine, qui vient juste de paraître chez Flammarion en cette rentrée littéraire. Un roman qui commence avec la canicule de l'été 76 et se termine pendant la tempête de 1999. Vous racontez l'histoire de notre pays à travers une famille de la campagne et à travers l'histoire d'amour du héros, un jeune agriculteur avec une écologiste allemande. L'héroïne, on pourrait dire que c'est la nature qui est tout autour de lui et que les paysans, au fond, sont les oubliés de l'histoire récente. C'est pour ça que vous aviez envie de leur consacrer tout un roman ?
Oui, le personnage principal, c'est la nature. On oublie un peu ça quand on parle des agriculteurs ou des paysans. C'est que cette nature, ça devient une sorte de lieu commun. On en parle tout le temps. On s'y réfère sans cesse, mais en fait, il y a assez peu de gens pour la connaître vraiment. C'est-à-dire d'une façon intime. Au point même que j'ai fait cette scène parce que je l'ai déjà vu faire de ce paysan qui creuse sa terre sur plus d'un mètre, qui fait une tranchée pour voir ce qu'elle a dans le ventre finalement, parce que il sent bien que sa vie pue là-dedans. Hein. Cette terre, il est en train de la faire crever. Et de la même façon que les agriculteurs, les paysans, qui sont un peu mon environnement familial, connaissent le nom des arbres, ou simplement une prairie, si vous voulez. Je suis venu là, j'ai pas fait attention de voir s'il y avait une pelouse ou pas de... Parce que maintenant, à Paris, on laisse au pied des arbres, il y a des sortes de garrigues, de maquis urbains, vous avez vu, au pied des arbres. Oui. On laisse pousser ça, on ne sait même pas vraiment ce qu'il y a. Et de la même façon, quand on voit une prairie, on prend le TGV, là, j'étais dans le train hier, ces kilomètres et ces kilomètres de prairies le long de la Saône-et-Loire, quand vous revenez de Lyon, on ne sait pas ce qu'il y a comme herbe là-dedans, alors qu'il y a du trèfle, il y a de la luzerne, de la fétuque, du raie grasse, enfin... Voilà, nous... Je m'inclus. Hein.
Nous les paysans, allez-vous
nous
dire.
Les citadins, justement. C'est là que je vous ai piégé. On va dire qu'il y a de l'herbe. Et surtout, on va dire ces temps-ci qu'il n'y en a pas. Hein. Parce que toutes ces prairies-là, de Saône-et-Loire, de Nièvre, n'ayant plus d'eau, et ça devient un tapis jaune, ça devient de la terre, tout simplement. On parle d'écologie, on parle de nature, on parle d'herbe, mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Alors que les agriculteurs, eux, même si on passe un peu notre temps... Alors, taper sur le dos à cause du glyphosate et autres, hein. Il n'empêche qu'eux, ils la connaissent, ils sont au contact, ils sont en première ligne, pour reprendre un terme à la mode. Le journaliste, c'est votre qualité. Hein. Il est dans l'action immédiate à rendre compte de ce qui s'est passé tout à l'heure. L'écrivain, il me semble qu'il peut avoir un peu plus de champ. Et dès lors qu'on a du recul, comme ça, sur 20 ans, 30 ans, on y voit un petit peu plus clair. De la même façon que cette crise qu'on vit en ce moment, là, on ne sait pas. Alors que avec un peu de recul, dans un an, ça nous semblera très lisible et très évident. Donc le romancier, en tout cas moi, en tant que romancier, je peux prendre ce recul. Donc je voulais faire le tableau de cette charnière de siècle. Et là, c'est un peu la première partie.
Et justement, avec, grâce à ce recul, Serge Joncot, on s'aperçoit qu'en 1976, on était encore omnibilé par le progrès. Hein, les supermarchés, les centrales nucléaires, le téléphone. Vous rappelez que c'est sous Giscard que tout le monde a été enfin raccordé au téléphone. Et que la rébellion, elle est venue des paysans contre le camp militaire du Larzac, mais aussi contre le modernisme, contre la mondialisation. Ils étaient là, ils étaient en première ligne.
Eh bien, encore une fois, ouais, c'est le mot qui revient, oui, sur le Larzac. D'ailleurs, le Larzac, ils ont été rejoints après par des tas de mouvements. Enfin, je veux dire, c'était d'ailleurs une sorte de...
Les hippies et François Mitterrand, même.
François Mitterrand qui a fait une grève de la faim d'un quart d'heure. Enfin, il y a des choses assez remarquables qui se sont passées autour du Larzac. Hein. Et c'était dans les années 70, alors j'étais un peu plus âgé que vous déjà, mais encore jeune. Et je me souviens de cette lutte-là qui semblait quand même... Il y avait un côté Woodstock en même temps. Et puis en même temps, on pouvait y agréger des vieux ronchons. Enfin bon, moi, ça me faisait rêver de loin. Hein. Et donc je voulais en faire restituer ce Larzac comme une forme de lutte aussi au long cours. Parce qu'aujourd'hui, on s'étonne qu'une lutte dure un an, deux ans. On trouve ça totalement exceptionnel. Alors que le Larzac, c'était plus de 10 ans, quoi. Et pour en plus gagner. Hein. Donc, cette lutte-là, voilà, j'ai pas envie qu'on l'oublie. De la même façon que je voulais remettre en scène, pas loin du Larzac d'ailleurs, Golfech, enfin les centrales nucléaires. Récemment, on a manifesté contre la fermeture de Fessenheim, mais il y a 40 ans, c'était tout le contraire. On manifestait contre les centrales nucléaires, contre les chantiers des centrales nucléaires, contre les pylônes qui allaient arriver aux centrales nucléaires. Et ça, on ne le faisait pas uniquement avec des slogans et des chants, on le faisait aussi avec de la monitrate et des explosifs.
Oui, j'allais vous dire, on a oublié comme c'était violent, hein, la fin des années 70, les antinucléaires, les autonomistes corses et bretons, l'extrême droite qui faisait sauter les foyers Sonacrotra. Et vous rappelez que c'est avec de l'engrais fourni par votre héros que des antinucléaires pouvaient fabriquer des explosifs pour faire sauter les pylônes EDF et les engins de chantier afin de ralentir la construction de nouvelles centrales, hein, l'engrais encore et les paysans en première ligne.
Encore une fois, oui. C'est d'ailleurs pour ça, pour revenir un peu à l'intrigue du roman, c'est que ce Alexandre, qui, on l'aura compris, vit dans sa ferme, ses sœurs montent à la ville et il va devenir intéressant pour les amis de sa sœur dans la mesure où, étant paysan, il a accès à de l'engrais, à de l'ammonitrate. Et l'engrais, ben voilà, ça servait de base. Là encore, on s'en est rendu compte assez récemment au travers de Beyrouth que c'est un explosif. Enfin, et en tout cas, toutes les bombes à cette époque-là, des années 70 à 80, étaient faites à partir d'un mélange de kérosène ou de gazole et d'ammonitrate à 96%. Donc, c'était pas rien, ces sacs-là qu'on voyait. D'ailleurs, il y en avait dans ma famille, et puis il y en a encore d'ailleurs, des gros sacs dont on... D'une certaine façon, il y avait comme une précaution, surtout, il ne faut pas allumer la lumière au-dessus de ça, il ne faut pas fumer, surtout, évidemment, dans la grange, et puis il ne faut pas que l'orage tombe. Ça semblait un peu fou, vous voyez, cette sorte de précaution. De la même façon que le voisin de ma grand-mère que j'ai recyclé dans ce roman, qui s'appelle Cressac, ne voulait pas du téléphone, voilà, qu'on nous imposait, parce qu'il ne voulait pas qu'on plante ses poteaux de pin traités à l'arsenic dans son pré, parce que ça allait, c'était des suppositoires à saloperie. On le prenait pour un fou à l'époque. Il avait peut-être pas complètement tort. Enfin,
mais
bon,
on voit bien que, au fond, les paysans sont comme les Indiens en Amérique, hein, menacés de disparition dans votre roman, toujours sommés de réagir, de s'adapter. Et ils sont toujours à la croisée des chemins. Ce sont, au fond, les plus exposés. Le Larzac, mais aussi Tchernobyl, la vache folle, le marché commun. Au fond, à chaque fois, les paysans sont exposés.
Oui, alors, à cette nuance par rapport aux Indiens d'Amérique, c'est que ce sont des Indiens qui... Tout repose sur eux. C'est-à-dire que s'ils arrêtent de produire, s'ils arrêtent de faire du lait, du maïs, du blé, on a manqué de farine en France il y a 3 mois. Hein.
Donc, le confinement, vous voulez dire ?
Pendant le confinement, tout à fait. Donc on est quand même un peu conscient que sans ces Indiens-là, on ne mange plus. Donc du coup, ça devient précieux, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et d'une certaine façon, pendant ce confinement, parlons-en un peu, parce que Alexandre est dans sa ferme, dans un dispositif, une situation au milieu de ces champs, de ces forêts. Finalement, c'était un peu le dispositif rêvé de tous les Parisiens, qui d'ailleurs, semble-t-il, sont tous partis pour aller vivre à la campagne ou acheter une maison à la campagne pour élever eux-mêmes leurs tomates, leurs poules, faire des œufs. Enfin, bon, donc, ce personnage qui pourrait sembler, ou qui aurait pu sembler, il y a ne serait-ce qu'un an, un peu anachronique, voire réactionnaire, d'une certaine façon, on se met tous à l'envier aujourd'hui.
Nature humaine, c'est le nouveau roman de Serge Joncot qui vient de paraître chez Flammarion. Merci Serge Joncot d'être venu sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Victor Chevrillon, bonjour. Vous publiez Les routes du Cachemire, enquête sur une filière cousue d'or aux éditions EFB. Il faut savoir que le marché du Cachemire a explosé ces dernières années, hein, dépassant les 2 milliards d'euros en pull-over, chaussettes, châles, écharpes, manteaux, gants, vestes. C'était un produit de luxe, c'est devenu un produit de grande consommation. Alors on se demande évidemment comment font-ils pour vendre aujourd'hui des pull-over en Cachemire à moins de 100 euros. C'est la question que vous vous êtes posée au départ ?
Oui, la question c'était d'essayer de comprendre en fait ce qu'il y avait derrière tout ça. On a des pulls à 100 euros, on a des pulls à 2000 euros. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est la même qualité ? Et puis est-ce que la chaîne qui a mené à ça était la même ?
Alors au départ de la chaîne, il y a des chèvres, celles qu'on appelle les chèvres Cachemire. On en trouve un peu partout, sauf au Cachemire, hein, si j'ai bien compris.
C'est ça, oui, exactement. En fait, aujourd'hui, 90% de la production de Cachemire, donc de la matière première, vient de Mongolie et de Mongolie intérieure en Chine. Donc c'est là-bas qu'on trouve toutes ces chèvres. Après, il y en a de manière marginale dans quelques autres pays, mais effectivement, ça vient de cette région-là.
L'essentiel des chèvres Cachemire sont donc en Mongolie, dans les steppes. Et ce n'est pas leur laine hein, qu'on coupe, c'est le duvet qui est sous le poil.
C'est ça, exactement. En fait, elles développent un petit duvet pendant l'hiver pour se protéger du froid. Parce qu'il faut savoir que en Mongolie, dans le désert de Gobi, les hivers peuvent être à moins 40, moins 50. Donc elles développent ce petit duvet pendant l'hiver qu'elles perdent au printemps naturellement. Elles font une mue. Et c'est ça qu'on va récupérer pour derrière tricoter nos pulls.
Chacune produit entre 300 et 500 grammes par an. C'est très, très peu.
Voilà, c'est peu. C'est très peu. C'est pour ça, en fait, que c'est une matière qui est assez précieuse. Hein. Quand on comparait chez les producteurs la quantité de matière qu'on avait pour une chèvre entre du cachemire et du mérinos, par exemple, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une matière qui est précieuse et rare.
Alors, évidemment, la tentation, c'est d'augmenter le nombre de chèvres cachemire pour pouvoir augmenter la production de cachemire. Mais ça n'est pas sans conséquences écologiques. Hein. Les chèvres ont tendance à rendre les steppes encore moins habitables qu'elles ne l'étaient.
Exactement. En fait, donc, on est tenté d'en produire de plus en plus. C'est ce qui a été fait. Depuis la chute de l'URSS en Mongolie, le nombre de chèvres et la production de cachemire a explosé. Et effectivement, elles vont manger les herbes dans la steppe. Et en fait, leur petite particularité, c'est qu'elles arrachent la racine avec par rapport aux autres animaux. Et donc, l'herbe ne repousse pas derrière. Donc effectivement, on a une désertification de ce qui est déjà le désert de Gobi et des steppes mongoles. Et donc, ça a tout un ensemble de conséquences derrière sur les écosystèmes, sur la santé animale, etc. Mais donc, effectivement, cette surconsommation de cachemire entraîne des vrais problèmes écologiques. Et d'ailleurs, même jusqu'en Chine, on a des tempêtes de sable qui soufflent sur Pékin. La Chine est consciente de ce problème et essaye d'endiguer cette désertification.
On a même pensé à les cloner, les chèvres cachemire.
Tout à fait, tout à fait. Un peu contre toute attente, les chèvres cachemire sont à la pointe de la génétique et du clonage. On a des laboratoires chinois et indiens qui ont cloné des chèvres cachemire. En fait, souvent dans le but d'essayer d'améliorer soit la quantité de cachemire qui est produite, soit la finesse du cachemire. Parce que en fait, plus le cachemire est fin, plus la fibre est fine, plus meilleure est la qualité.
Alors c'est Napoléon, en rapportant d'Égypte du cachemire, qui a fait que l'impératrice Joséphine, sa femme, en a lancé la mode. Elle portait des châles en cachemire. On a même implanté des chèvres cachemire en France au début du 19e siècle, puisque le marché semblait juteux. Ça n'a pas duré longtemps, mais en Écosse, oui, l'industrie est toujours active. On file et on tisse le cachemire depuis 200 ans. C'est vrai qu'une fois qu'on a pris le cachemire sur le dos des chèvres cachemire, il faut le tisser et le filer. Et les grandes marques de luxe font encore aujourd'hui fabriquer leurs écharpes, leurs pull-over, leurs manteaux en Écosse. Hein. C'est là qu'on produit, qu'on fabrique, qu'on tisse le meilleur cachemire.
Tout à fait. En fait, c'est eux qui ont le plus d'expérience, comme vous le disiez, de plus de 200 ans d'expérience pour les plus vieilles maisons. Donc, historiquement, l'Écosse est vraiment dans l'imaginaire du cachemire. Moi, quand j'en parle avec mes parents, mes grands-parents, c'est d'Écosse que venait le cachemire. Donc, naturellement, je suis allé voir là-bas. J'ai voulu comprendre un petit peu quel était ce cachemire qu'on faisait en Écosse et en quoi il était différent de celui qu'on peut voir ailleurs. Et effectivement, c'est leur histoire et leur expérience qui leur permet de faire un très beau cachemire. Il y a aussi la présence d'une eau très pure. Alors, ils parlent beaucoup de cette eau qui permettrait de faire un très beau cachemire parce qu'elle permet d'éviter de mettre des produits chimiques. Voilà, elle adoucirait naturellement. Donc, ils font un très beau cachemire. Au début, je pensais qu'ils avaient des chèvres sur place, mais en fait, non, donc pas du tout. Ils importent la matière et ils fabriquent leur cachemire.
Et c'est la façon de le brosser aussi. Alors l'eau, ils parlent beaucoup de l'eau, c'est normal, oui. Personne ne peut leur piquer l'eau. Hein. Donc ça, ça reste écossais. Mais il y a aussi la manière de le brosser ensuite. Ils utilisent des épines de chardon.
Tout à fait. Alors c'est assez fascinant. Ils ont au milieu de ces machines, donc il faut voir qu'on est dans des usines avec des machines, tout est très mécanisé. Et au milieu de ça, on voit des machines qui sont en fait des espèces de racks qui contiennent plein de chardons. Et les épines des chardons, parce qu'elles sont un peu souples, elles vont pouvoir en fait brosser sans casser et sans trop arracher le cachemire. Elles vont brosser le cachemire pour lui donner un effet ondulé ou certains effets qui permettent d'avoir une finition particulière.
Chaleur, douceur, résistance.
Exactement.
Ça, c'est le très beau cachemire. La plupart des cachemires les plus chers que l'on peut acheter chez les grandes marques de l'industrie du luxe, ils ont été fabriqués en Écosse.
Tout à fait.
Vous l'avez vérifié. Maintenant, il y a tous les autres. Et tous les autres, vous allez nous raconter d'où ils viennent juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Victor Chevrillon, dans les routes du Cachemire, votre enquête, hein, on part à la poursuite de ces pullovers que l'on trouve aujourd'hui à moins de 100 euros, pullovers en Cachemire, moins de 100 euros dans les supermarchés, ce qu'on appelle le Cachemire à petit prix. Et évidemment, on se demande tous comment font-ils pour nous proposer des Cachemires aussi peu chers, sachant que dans les boutiques d'à côté, les boutiques de grand luxe, il est 10, 20 fois plus cher au même moment. Alors, c'est du Cachemire mongol, mais de moins bonne qualité.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la chaîne qui permet de produire du cachemire est assez complexe. Il y a plein d'étapes, sans surprise. Il y a la matière première, toutes les transformations qu'on va lui faire subir. Et à chacune de ces étapes, on va pouvoir changer des paramètres, effectuer différents réglages qui vont permettre de réduire le prix et donc bien souvent la qualité avec. Le premier paramètre vraiment fondamental, c'est la fibre en elle-même, la qualité de la fibre. Si on prend la fibre d'une jeune chèvre femelle en bonne santé, elle sera de bien meilleure qualité qu'un vieux mâle affamé que vous allez trouver près des villes, qui s'étiole complètement.
Au fond, si j'ai bien compris votre livre, 80% de la production mongole de Cachemire est achetée par les Chinois à des prix souvent très bas, 10 ou 20% moins chers. Et au fond, ils le filent en Chine et ils endommagent la fibre. La qualité n'a plus rien à voir, mais ce sera quand même écrit sur l'étiquette 100% Cachemire.
Tout à fait, tout à fait. Bah, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les étapes qu'on va effectuer sur la fibre va l'endommager. À chaque fois, le rôle, en fait, et c'est ce qu'expliquaient très bien les Écossais, le rôle est d'endommager le minimum la fibre. Il ne faut pas brusquer le cachemire, en fait. Il faut faire des processus assez doux. Et donc, si on veut aller vite, si on veut produire des quantités industrielles, on va endommager la fibre. L'exemple le plus flagrant, ça va être pour avoir une couleur uniforme et pouvoir teindre le cachemire, bah, on va javeliser tout ça, on va le bleacher. Pour avoir une couleur blanche, et derrière, on va appliquer des teintures qui sont aussi assez agressives, et donc ça va évidemment réduire énormément la qualité.
Alors, c'est vraiment la finition, hein, et souvent la finition, elle est effectuée au Vietnam ou au Cambodge, et ça n'a pas effectivement la même, avec le même travail, le même soin. Il est, paraît-il, courant de mélanger plusieurs fibres aussi, et d'annoncer 50% cachemire alors qu'il n'y en a que 10%.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 30% du cachemire vendu dans le monde qui est sujet à de la fraude. Donc, des mauvaises fibres qui sont dedans. Alors, soit c'est parce que ce n'est pas très bien indiqué, soit les proportions ne sont pas exactement les bonnes. Mais bon, mais donc, effectivement, ce n'est pas un problème en soi de mélanger, de dire il y a quelque chose qui est à moitié laine, moitié cachemire. Simplement, il faut l'annoncer. Et bien souvent, il y a des produits étiquetés cachemire qui ne le sont pas du tout. En fait, c'est aussi qu'il y a très peu de contrôle. C'est un marché qui est peu contrôlé, les contrôles sont difficiles à faire. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on achète, il faut regarder les étiquettes. Et aujourd'hui, en fait, il n'existe pas vraiment un label reconnu et qui fasse autorité sur le marché du cachemire qui puisse permettre de certifier ce genre de choses.
C'est ce qui est terrible quand on lit votre livre, on se dit, mais au fond, je n'ai aucun moyen de me défendre. Par exemple, vous dites qu'on peut utiliser du cachemire recyclé. Le cachemire recyclé, il coûte 8 euros le kilo, c'est beaucoup moins cher évidemment que le cachemire, le vrai. Donc, la fibre est très courte et de moins bonne qualité et on la mélange avec du cachemire vierge ou d'autres laines et on dit que c'est du cachemire.
Tout à fait. Bah, le cachemire recyclé, en soi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'encourager l'économie circulaire, réutiliser ce qu'on a déjà porté. Simplement, il faut l'annoncer. C'est comme si on vendait une voiture d'occasion et qu'en vous disant qu'elle est neuve. C'est le cachemire recyclé est de moins bonne qualité. C'est bien de l'utiliser, mais il faut prévenir les gens.
Et les pashminas, alors on en trouve beaucoup à moins de 100 ou à moins de 150 euros.
Oui, alors le pashmina, c'est en fait, ce qui est compliqué avec le pashmina, c'est que ça peut désigner à la fois la fibre. Dans certains pays, on appelle le cachemire pashmina, et puis, ou alors ça peut désigner une certaine étoffe avec sa forme et les motifs qui sont dessus, mais sans que ce soit forcément en cachemire. Donc, bien souvent, quand on va dans les régions, alors ça va souvent être en Inde, dans la région de Cachemire, voilà, on va vous vendre un pashmina sans vous dire que ce n'est pas du cachemire, mais ils ne vous mentent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas d'obligation que ce soit du cachemire. C'est simplement qu'ils profitent de cette confusion pour vous vendre à des prix faramineux, de la viscose ou du coton.
Au fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dizaines de qualités différentes de cachemire, comme dans le vin. Et je ne parle même pas des mélanges, là. Hein. On parle juste du cachemire, du vrai cachemire. Mais même si vous êtes sûr que c'est du vrai cachemire, ça peut être très, très beau ou pas.
Exactement, exactement. Il y a plein de qualités différentes. Un peu comme dans le vin, d'ailleurs, il y a des assemblages. On peut essayer, pour faire des beaux tissus, on va mettre différentes longueurs ensemble. Mais c'est compliqué, en fait, de savoir, quand on achète un cachemire, quelle va être la qualité. Il y a un certain nombre de critères, mais la plupart des éléments, on va dire, de la qualité vont se révéler avec le temps, et c'est compliqué à l'achat de s'en rendre compte.
Et est-ce qu'il y a encore du cachemire qui soit filé et tissé à la main ? Parce que oui. Ça prend des semaines au lieu de prendre quelques secondes. Or, même quand ce sont des très grandes marques de luxe, même quand c'est des pulls en cachemire très très chers, ils ont été faits à la machine.
Tout à fait. Alors, l'essentiel aujourd'hui de la production de cachemire est industrialisé, mais il reste quelques réfractaires, quelques passionnés qui font du cachemire à la main. Alors, il y a... moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une espèce d'explorateur excentrique allemand fascinant qui produisait, qui récupérait en fait de la matière en Mongolie et qui le produisait à la main au Népal. Et ils font des pièces absolument magnifiques, mais ils mettent 2 mois à faire ce qu'un grand producteur, un Loropiana ou Johnson, va faire en 2 secondes.
Et ces pièces, à lui, on les trouve chez qui ?
Ces pièces, à lui, on peut les trouver chez Hermès, par exemple, qui sait se fournir auprès de beaucoup de très bons fabricants.
Merci, Victor Chevrillon. Je rappelle que Les Routes du Cachemire, votre enquête sur une filière cousue d'or, vient de paraître aux éditions EFB. Europe 1. C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain à 9h.